podcast France Culture.
Mécanique de la cybermenace, épisode 2, la démocratie dans le viseur. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une attaque hybride, qui à l'époque avait été très mal anticipée. En 2016, un mois avant l'élection présidentielle américaine, les directeurs de la sécurité intérieure et du renseignement national accusent publiquement la Russie d'ingérence dans le processus démocratique. Le sujet est traité comme ici sur NBC News le 7 octobre.
Going to transition to some breaking news coming in just now.
The statement is very dramatic.
C'est un communiqué au titre très alarmant. On y lit que les services de renseignement se disent convaincus que le gouvernement russe est à l'origine de la compromission d'emails appartenant à des institutions américaines, y compris de partis politiques américains.
Ce sont en fait les comptes e-mail du Parti démocrate qui ont été piratés et publiés ensuite par WikiLeaks, avec l'intention initiale de nuire à Hillary Clinton, ou en tout cas pour saper la confiance dans l'élection et dans les institutions démocratiques. C'est la méthode du hack and leak, le piratage, le vol de données, puis la diffusion de ces informations, parfois manipulées. Méthode réutilisée en France l'année d'après, à l'avant-veille du second tour de l'élection présidentielle, ce qu'on a appelé les Macron Leaks. Lors de la soirée électorale sur France Culture le 7 mai 2017, le chercheur Nicolas Van Der Beest l'évoquait.
On a vraiment une news qui naît sur un forum américain, qui s'appelle 4chan, où l'anonymat est garanti, et donc il est très facile de lâcher des choses. C'était la même construction que pour la rumeur du compte caché, soi-disant, de Emmanuel Macron aux Bahamas.
En tout, 20 000 emails sont publiés et mêlés à des faux, mais la manipulation arrive trop tard pour avoir un impact. La France n'accuse pas officiellement la Russie, mais des responsables américains du renseignement le font à demi-mot, le 9 mai, avec le patron de la NSA, lors d'une audition au Congrès.
Nous nous sommes aperçus d'activités russes dont nous avons parlé à nos homologues français. Puis, nous avons partagé nos informations avec eux.
5 ans plus tard, le risque, cette fois, est clairement identifié par les autorités. J'ai posé la question directement à un membre du gouvernement à Bercy.
Donc je m'appelle Cédric O, je suis secrétaire d'État en charge de la transition numérique et des communications électroniques.
Le piratage des emails du Parti démocrate aux États-Unis en 2016 et le piratage des emails de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, pour vous c'est le même procédé ?
Alors je ne sais pas si c'est le même procédé technologique, mais c'est de toute évidence la même volonté de nuire à une élection en perturbant un processus démocratique et en révélant des coulisses qui peuvent poser des questions. En l'occurrence, ça a échoué, notamment pour Emmanuel Macron, parce que je suis bien placé pour le dire, ça a eu l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de fantasmes autour des comptes d'Emmanuel Macron. Il se trouve que j'étais trésorier du candidat, que l'ensemble de mes emails, donc des comptes, donc des échanges qu'on avait sur nos process, ont été révélés, et que ça n'a révélé qu'une seule chose, c'est que les process étaient extrêmement bien cadrés et qu'il y avait une volonté d'être absolument dans la légalité qui était systématique. Donc ça a eu l'effet absolument inverse. Mais c'est la volonté, effectivement, de perturber en créant des interrogations et en créant un phénomène de perturbation à la dernière minute qui pourrait, si jamais l'élection est serrée, faire basculer tel ou tel d'un côté ou de l'autre.
Et cette fois, tous les candidats et leurs partis ont été sensibilisés par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, dont on reparlera dans le prochain épisode, et par Viginum, nouvelle agence créée en octobre 2021, chargée de lutter contre les ingérences numériques étrangères. Une réunion avec tous les représentants des partis politiques a eu lieu le 14 octobre 2021.
Ça a été fait à l'ensemble des partis politiques, ce qui était, je crois, une sensibilisation et, le cas échéant, une offre de conseil, de telle manière à ce qu'il y a beaucoup de prestataires privés ou de choses comme ça, on puisse orienter vers tel ou tel type d'assistance ou tel type d'assistance, afin que les gens ne soient pas démunis, mais encore une fois, ça restait dans leurs mains. C'est à eux de décider s'ils voulaient de cette aide ou pas.
Pour contrer ce qu'on appelle aussi la lutte informatique d'influence ou encore une attaque informationnelle, Viginum est doté d'une 60aine d'agents, échapeautés par le Secrétariat général à la Défense et à la Sécurité nationale, le SGDSN, dirigé par Stéphane Bouillon. Ce dernier était auditionné à l'Assemblée nationale le 2 juin 2021 à ce propos.
Ce que nous cherchons à faire, c'est de voir qu'une information qui est en train de circuler et qui a une rapidité d'amplification très forte, vient d'un pays étranger ou d'une organisation étrangère qui vise ainsi à déstabiliser sur le plan politique l'État, à faire monter quelque chose dont nous, il ne nous appartiendra pas de dire que c'est inexact. La justice pourra le dire. Les hommes politiques pourront le dire. Le service d'information du gouvernement, le cas échéant, pourra faire une information sur ce sujet et participer ainsi au débat politique qu'il peut exister. Nous, notre objectif, c'est simplement de pouvoir détecter le plus tôt possible quelque chose qui est en train de monter et de pouvoir, j'allais dire, signaler l'incendiaire et pouvoir le signaler pour qu'il ne remette pas le feu ailleurs à un autre moment. Et donc nous souhaitons évidemment une articulation la plus forte possible avec les médias, donc avec, nous le souhaitons, des journalistes, mais aussi des représentants des réseaux sociaux qui pourront être installés dans le comité d'éthique et scientifique. Et nous aiderons les médias, s'ils le souhaitent, à jouer leur rôle, mais nous ne nous substituerons en aucun cas à la mission des médias sur ce sujet, et nous n'interviendrons encore une fois qu'en toute transparence, pour détecter et caractériser une information qui pourra être faite, c'est-à-dire sur tout ce qui sort. Nous ne faisons pas du renseignement, parce que ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en train de devenir pandémique, si je puis dire, pardonnez-moi, en termes informationnels. Donc si ça circule à l'intérieur d'une boucle entre 10 ou 20 personnes, ça ne pose aucun problème, ni en termes de sincérité du scrutin, ni en termes d'ordre public. Donc ça n'est pas mon problème. Moi, ce qui m'intéresse, je reprends mon image parce que j'y tiens, mais c'est l'image du feu de forêt. C'est-à-dire quelque chose qui est sur la place publique et qui est en train de circuler à travers source ouverte et qui est en train de faire beaucoup de buzz.
En cas d'attaque informationnelle, Viginum devra en référer au Conseil d'État et à l'ARCOM, l'ex-CSA. Être vigilant aussi à ce qu'on appelle les deepfakes, ces vidéos manipulées où une personnalité semble tenir des propos qu'elle n'a jamais tenus. Une approche très différente des précédentes élections, estime le chercheur Julien Nocetti.
En Occident, aux États-Unis et en Europe, pendant très longtemps, on a eu une approche essentiellement technique, technologique finalement, de ces enjeux de cybersécurité. Alors que là, dans le cas de la Russie, hein, qui est un des principaux pays qui nous intéresse en matière cyber, vous avez historiquement une combinaison, un couplage très étroit entre le potentiel du cyber et le potentiel de l'information comme arme. Sous-entendu que les deux sont étroitement imbriqués et que l'objectif principal d'une cyberattaque pour la Russie, c'est aussi de produire des effets informationnels, de produire de l'incertitude politique. Et ça, c'est quelque chose qui a effectivement été appréhendé avec retard, je pense, par les autorités civiles et militaires occidentales. Mais l'expérience, la jurisprudence, au fond, de 2016, a constitué un tournant. Et aujourd'hui, on mesure très très bien l'imbrication, vraiment, hein, de ces deux dimensions. Donc le hack and leak, oui, est une tactique éprouvée par la Russie en particulier, qui a été reprise par la Chine à une échelle un petit peu différente, parce que le pays situe son action internationale de façon peut-être un petit peu différente par rapport à celle de la Russie. Mais globalement, on est face à un enjeu, le hack and leak, qui est aujourd'hui tout à fait éminent, avec l'enjeu des fuites d'informations qui est peut-être un des alpha et oméga finalement, hein, de la diplomatie internationale. Là, on est quand même face à des États, des adversaires géopolitiques, la Russie, la Chine en particulier, qui entendent bien aussi profiter de l'ouverture finalement de notre paysage informationnel, qui savent très bien qu'on est dans une société démocratique et que cette ouverture, que ce pluralisme médiatique favorise aussi la diffusion de discours contradictoires, parfois très grossiers, et ce qui justement est un levier majeur en matière de manipulation d'informations.
Viginum indique avoir suivi de près les élections en Allemagne à l'automne et le référendum sur l'indépendance en Nouvelle-Calédonie en décembre pour préparer au mieux les élections présidentielles et législatives en France en 2022. Dans le prochain épisode, nous irons sur le lieu d'une cyberattaque pour comprendre à quel point un tel événement peut avoir de graves conséquences.